Voilà, alors on va essayer de remonter à il y a 3 mois de cela, un peu plus de cela. On a commencé cette thématique sur des clés pour mieux saisir, pour mieux comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit? Oh, il y en a qui s'en souviennent, c'est bien. Non, je ne vais pas la faire répéter. Je vais juste très rapidement survoler parce que j'aimerais vraiment aller sur la suite. Il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé justement que Dieu avait une volonté. C'est pour ça que j'ai abordé le thème, hein, sinon je n'aurais pas abordé ce thème-là. Que Dieu a réellement une volonté. Mais que souvent, ce n'est pas la volonté en elle-même qui est dérangeante, mais la personne qui exprime la volonté. On n'a pas de mal avec le fait que d'autres ont une volonté, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça, on a notre propre volonté. Et lorsque nos amis, lorsque notre famille, nos collègues, qu'importe, notre patron expriment leur volonté, on ne va pas leur dire « Non, tu n'as pas le droit d'exprimer ta vie, tu n'as pas le droit d'avoir ta propre volonté, tu n'as pas le droit d'avoir tes opinions. » Non, la personne, si elle veut avoir ses opinions, elle a ses opinions. Mais par contre, si elle commence à nous interpeller, si quelqu'un vient me voir pour m'exprimer sa volonté et me dit « Je veux que tu fasses ça », qu'importe ce qu'il va me dire, la première chose qui va faire une différence, c'est qui me le dit et qui me le demande. Et mon père viendra me demander une chose, ma femme viendra me demander une chose que je vais faire avec ponctualité, que je vais faire avec enthousiasme, qu'une personne étrangère va me demander la même chose. Je vais peut-être regarder et demander « qu'est-ce que tu me veux ?» Comprenez? Et donc souvent, et c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est que lorsqu'on aborde la volonté de Dieu, on a besoin de commencer par comprendre qui est celui qui nous montre et qui nous présente sa volonté. Parce que souvent, ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire, c'est tout ce qu'il y a derrière ça qui nous fait peur. Et parce qu'on a une mauvaise image de Dieu, on voit une espèce de Dieu jaloux ou qui est mauvais, qui est méchant, quelqu'un qui retient, quelqu'un qui fait exprès de mettre des pièges au cas où, pour nous garder éveillés, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de conceptions qu'on a sur Dieu. Alors lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, alors ça fait peur. Parce qu'on a affaire à quelqu'un un peu de... où on n'est pas trop sûr. Pourtant, on a dit qu'on a vu ensemble rapidement qu'il nous fallait vraiment contempler et voir qui était Dieu. Et quand on contemple Dieu, Romain, à travers tous ses chants, nous partageait son amour, l'amour de Dieu, lorsqu'on saisit qui est Dieu, alors on peut lui faire confiance. Alors ça ne devrait plus poser aucun problème, quoi qu'il nous dise, quoi qu'il nous demande, ça ne devrait pas poser un problème, parce qu'on sait qu'on a en face de nous quelqu'un dont on est sûr à 100%. Quelqu'un qui nous aime à 100%. Dieu dira, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour me repentir. Ce que je dis, je le ferai, ce que je déclare, je l'exécute. La Bible nous dit que Dieu est amour, on a vu que puisque Dieu est amour, Dieu n'est pas autoritaire. Si Dieu était autoritaire, croyez-moi, on n'aurait pas le choix de faire ce qu'il nous demande. On ne serait pas en train de dire « Oh, je vais voir. » Non, on n'aurait juste pas le choix. Alors non, Dieu n'est pas autoritaire. Dieu est amour, c'est pas pareil. Et il nous présente sa volonté. Il nous présente sa volonté avec amour. Dieu est amour et tout ce qu'il fait n'est pas motivé par la peur. Dieu n'essaye pas de nous faire peur. Dieu nous présente la vérité telle qu'elle est. Dieu ne nous cache rien. Comme on l'a dit, Dieu ne nous cache pas, un couteau ça coupe, le feu ça brûle. C'est la vérité, ce n'est pas pour nous faire peur. Le feu n'a pas demandé à faire peur. D'ailleurs, il est très utile dans certains cas. C'est sa nature. Dieu est amour. Cela ne veut dire qu'il n'y a aucun soupçon de mal en lui. Il y a absolument, Dieu ne cherche pas d'abord son intérêt, mais le nôtre. Dieu n'est pas une espèce de gars narcissique ou qui ramène tout à lui ou qui nous fait faire les choses juste pour lui-même. Non, Dieu est motivé et la Bible nous dit que s'il a donné sa vie, s'il a donné jusqu'à donner son fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses par-dessus? Dieu nous a donné le meilleur, alors qu'on ne le méritait pas. Ça, c'est pour nous prouver son fond. On a vu aussi que Dieu était parfait. On ne peut donc douter de ce qu'il fait. On ne peut pas, puis on s'était arrêté là, puis ce soir on va continuer justement sur cette perfection de Dieu, parce que cette perfection de Dieu, on ne peut pas juste dire Dieu est parfait, parce que ça nous amènerait à mal comprendre les choses. Oui, Dieu est parfait, et tout ce que Dieu fait est parfait. Il n'y aura jamais rien à redire là-dessus. Cependant, sa perfection se manifeste dans un monde imparfait. Et c'est là où souvent, il y a un couac entre ce que Dieu fait ou veut faire et nous tout en bas. Alors on a commencé par réaliser que la perfection de Dieu ne signifie pas que Dieu contrôle tout. C'est pas parce que mon patron m'a parlé aujourd'hui 3 fois de la Suisse qu'il faut comment je me dise, oh là, peut-être que Seigneur, tu aurais pour moi un petit déménagement en Suisse. Non! Dieu ne s'amuse pas à contrôler toutes les espèces de machins de toute la journée, chaque mot, chaque parole, chaque geste, chaque pensée qui arrive dans tout votre flot de votre journée. Non, ça n'arrive pas. Je peux jeter, mettre un coup de pied dans le pupille, Dieu n'interviendra pas pour le ramasser. Non, Dieu ne contrôle pas tout. Il reste en contrôle, c'est différent. Et lorsque quelque chose peut amener la volonté de Dieu à être bifurquée, Dieu intervient pour garder son plan. Dieu sait où il va. Mais Dieu ne va pas s'amuser dans les moindres détails de nos vies. Dieu ne s'amuse pas avec ça. Alors oui, Dieu est parfait, mais dans un monde imparfait, où Dieu a accepté de nous laisser ce qu'on appelle le libre arbitre, où dans notre volonté, nous avons une latitude d'action, où Dieu est d'accord avec ça. Et Dieu nous permet d'avoir un champ dans lequel on a notre propre volonté. C'est ça qui est extraordinaire avec l'amour de Dieu. C'est qu'alors que Dieu nous présente sa volonté, il y a bien des sphères dans notre vie où il nous dit « Voici ma volonté ne se limite pas à ça, elle englobe des choses. » Et je suis convaincu que bien souvent Dieu essaye de nous dire « Non, c'est pas moi plutôt que c'est moi. » Parce qu'on a tellement l'habitude de le mettre partout et tellement souvent que je suis plus convaincu qu'aujourd'hui Dieu essaye souvent de nous dire « Non, c'est pas moi, j'essaie pas de parler, j'ai rien fait moi là. » Parce que pour un oui ou pour un non, on met trop ça sur le dos de Dieu ou sur le diable, hein, parce que lui aussi il a un bon dos, hein. C'est l'un ou l'autre de toute façon. Hein. Et comprendre que ça va beaucoup plus loin la volonté de Dieu, et c'est ce qu'on va voir ce soir. La perfection de Dieu, c'est de comprendre aussi que Dieu nous équipe afin que nous puissions par nous-mêmes, avec ce qu'il nous a donné, prendre une multitude de décisions. Alors Dieu est parfait, mais nous on ne l'est pas, et le monde dans lequel on est ne l'est pas non plus. Est-ce que la volonté de Dieu est parfaite ? Il y a des oui timides, mais il y a des oui, c'est bien. Oui, la volonté de Dieu est parfaite. La Bible nous dit que tout ce qui vient d'en haut est parfait. Dieu est parfait, il ne peut pas faire quelque chose contre nature. Ce qu'il fait est parfait. Mais même si vous faites la volonté de Dieu, qui est parfaite, dans les moindres détails, tous les jours de votre vie, vous savez quoi ? Votre vie ne sera pas parfaite. Votre vie restera imparfaite. Pourtant, la volonté de Dieu est parfaite. Mais même si dans les moindres détails, la volonté de Dieu, vous la respectez de A à Z, votre vie ne sera pas parfaite. Parce que Dieu n'a jamais promis une vie parfaite. Il nous l'a promis, mais pas ici. Là-haut, quand il reviendra nous chercher par amour pour nous et qu'il nous enlèvera à ce monde. Alors, effectivement, ce que Dieu donne est parfait, mais il faut saisir 2 choses. Dieu nous donne quelque chose de parfait. Lorsque Dieu nous donne quelque chose de parfait, lorsqu'il nous donne sa volonté qui est parfaite, cela ne nous rend pas parfaits. Ça, c'est la première des choses. Dieu peut me donner des dons extraordinaires. Dieu peut me donner sa volonté dans le domaine professionnel. Dieu peut me donner sa volonté dans mon domaine sentimental. C'est sa volonté, c'est ce qui est parfait, c'est ce que lui a voulu. Mais ça ne me rend pas parfait, ça ne va pas me transformer moi. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'il va nous donner, il va accepter de le mettre entre des mains imparfaites. Il va accepter de donner quelque chose de parfait à quelqu'un qui sait d'avance qu'il va peut-être mal l'utiliser. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la bonté de l'amour de Dieu. Et ça, il faut le comprendre. Alors, je prends un exemple. Je vais venir prendre un exemple sur la vie sentimentale. Comme ça, tout le monde saisit plus ou moins ce que je veux dire. Dieu nous conduit par rapport à notre vie sentimentale et il nous donne la personne qu'il nous faut. Non pas l'unique personne qui existe pour nous quelque part sur la terre, mais la personne qu'il nous faut. C'est ce que Dieu veut, Dieu exprime sa volonté, parce que Dieu veut exprimer sa volonté dans chaque domaine de notre vie. Dieu exprime sa volonté et Dieu nous donne la personne qu'il nous faut. Est-ce que cela me garantit un mariage parfait ? Non ? Ok, bon. Pourtant, Dieu nous a exprimé sa volonté, ce qui est parfait, ce que lui souhaite. Et on obéit, mais ça ne nous garantit pas un mariage parfait. D'ailleurs, souvent on prend un exemple qu'on a tiré tellement par tous les quatre coins qu'on en a fait par déformer on l'a déformé ce texte, c'est lorsque le serviteur d'Abraham va chercher une épouse pour Isaac. Hein, c'est de ce fameux texte que vient l'énigme qu'il y a une seule personne pour nous. Ce serviteur est venu, il a prié Dieu, certes, il a demandé à un Dieu, certes, à ce moment-là, c'était pour lui un moment spécifique, c'était une façon que Dieu l'a conduit de façon spécifique. Il a demandé un signe, et là, le signe est arrivé tel qu'il l'avait demandé. Il a pris Rebecca, il l'a emmené Isaac l'a marié. Mais est-ce que le mariage d'Isaac et Rebecca vous fait rêver, vous, dans la Bible ? Pourtant, n'est-ce pas même le seul exemple où on peut être sûr que Dieu l'a choisi, elle ? Parce que souvent, lorsqu'on voit un mariage qui part en vrille, on se dit « Ah, ils avaient qu'à mieux réfléchir, ces deux-là. S'ils avaient été dans la volonté de Dieu, ça ne serait pas ainsi. » Sauf qu'on se trompe. On se trompe lourdement. Parce qu'il suffirait de regarder en arrière et de réaliser que Dieu manifeste, exprime sa volonté, mais il laisse sa volonté avec des êtres humains imparfaits. Donc il nous faut vraiment nous mettre ça en tête. Tout ce que Dieu donne est parfait. Lui fait toujours les bons choix. Mais ça ne nous garantit pas une vie parfaite. Et ça ne doit pas nous faire penser que nous sommes parfaits et qu'il n'y a plus rien à travailler chez nous. Si Dieu nous conduit dans un travail, il manifeste sa volonté, il ouvre une porte pour un travail précis et pas un autre, on arrive dans ce travail-là, est-ce que ça veut dire que tous les matins je vais danser en allant au travail ? Et lorsque mon patron va me balancer la feuille, on me dit « Mais t'es trop nul, c'est pas comme ça que je t'avais dit, recommence !» Je vais dire « Alléluia, c'est le travail que Dieu veut pour moi !» Non, je vais avoir envie de lui qu'on se parle, comprenez ? Donc oui, Dieu exprime sa volonté. Oui, Dieu manifeste sa volonté. Oui, Dieu nous parle, mais la réalité, c'est que le monde reste le monde. Et qui on est ? Si on ne change pas, on va rester qui on est aussi. Et ça, il faut le comprendre. Parce que sinon, je vais remettre en doute quelque chose que Dieu m'a dit oui, parce que ça ne va pas. Puis là, le travail ne vient plus. Oh, Seigneur, j'ai dû me planter. Finalement, tout ce que je t'avais demandé, puis tout ça, c'est faux. Je vais juste changer de travail, puis ça ira. Non, ça ira pas. Ça ira pas parce qu'il n'est pas là, le problème. Le problème est de comprendre que Dieu exprime et exprimera toujours sa volonté. La Bible nous dit que celui qui le cherche, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et lorsqu'on cherche Dieu, Dieu nous exprime sa volonté. Mais il faut accepter que même dans la volonté de Dieu, on peut vivre les pires embûches et les pires difficultés. Sans remettre en question la volonté de Dieu. Parce qu'on a compris une chose, l'imperfection fait partie de notre univers Et tous les perfectionnistes, vous avez le droit de dire amen, même s'il faut desserrer les dents. Notre vie sera toujours ponctuée d'imperfections. C'est ainsi. Même si vous essayez de tout faire parfaitement selon la volonté de Dieu, parce que vous êtes imparfait, parce que vous êtes dans un monde imparfait, ça n'arrivera pas, la vie parfaite. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, parce que de toute façon, rien n'est parfait. Non. Mais on doit comprendre que Dieu nous a équipés, Dieu nous a donné des choses extraordinaires qu'il a mis en nous pour que nous apprenions à prendre de bonnes décisions, des décisions qui vont être agréables à Dieu. Et c'est souvent là qu'on mélange tout. Parce que lorsqu'on essaye de comprendre la volonté de Dieu, c'est comme si on essayait de faire un sudoku mélangé à un rébus, en mots croisés. Puis là, ça devient un casse-tête parce qu'il y a cette question, cette ultime question. Est-ce la volonté de Dieu ? La question qu'on recherche désespérément de répondre tellement souvent. Une question, et on va voir, à laquelle Dieu a répondu déjà très souvent. Parce que Dieu nous a déjà équipés et Dieu nous a déjà donné des outils pour répondre à cette question. Bien sûr, c'est des questions qui nous concernent et on ne peut pas les appliquer, mais c'est des principes qu'on va appliquer à notre vie face à notre situation. Alors, ce soir, j'aimerais que vous compreniez très bien là où je veux en venir. Je vais développer qu'un seul point ce soir, d'accord ? Je vais parler d'un élément. Je ne vais pas parler des autres éléments. Les autres éléments vont nous permettre de faire l'équilibre, d'accord ? Mais je veux m'arrêter vraiment sur un élément ce soir pour pas justement survoler, parce que je veux approfondir ça. Alors, n'essayez pas de vous dire, oui, mais il n'y a pas que ça quand même. La suite va arriver, d'accord ? Mais on va juste s'arrêter sur un élément ce soir et essayer de le creuser ensemble. Alors, d'abord, je vous pose une question. Quel est le premier élément que l'être humain dispose pour prendre des décisions ? Voilà. La raison, l'intelligence. Notre capacité de raisonner, notre capacité de réfléchir, de penser, celle qui nous a été transmise par qui ? Par Dieu. Nous sommes la seule créature dotée de cette capacité de penser, de réfléchir, de cette intelligence. La Bible nous dit que seul l'homme a été fait à l'image de Dieu. Dieu est un être qui réfléchit, qui pense, qui est intelligent, qui a une sagesse. Et Dieu nous a fait à son image. Donc notre intelligence vient de Dieu. Pas du diable. Elle vient de Dieu. Notre capacité d'être sage, notre capacité de réfléchir, de penser, vient de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu pour être des êtres intelligents, pour vivre, pour nous développer, pour faire des choix. Et moi, je remercie Dieu qui nous ait donné quand même une intelligence. Hein, parce que quand je regarde les animaux, il y a quand même du bon à avoir une intelligence. Alors, même si effectivement, l'être humain ne s'en sert pas toujours bien, n'en fait pas un bon usage bien souvent, mais ça quand même nous a permis d'évoluer. Moi, je suis quand même heureux que tous les matins, je n'ai pas besoin de prendre mon arc et mes flèches pour aller chercher mon petit-déj. Je suis content qu'un jour, il y en a un qui a découvert le feu, qui a compris qu'il pouvait chauffer la viande. D'ailleurs, juste ça, ça a permis de rallonger l'espérance de vie, hein, parce qu'il y avait moins de bactéries dans les aliments. Je suis content qu'il y ait des gens qui ont évolué avant moi. Moi, je suis content d'être arrivé dans cette génération. Je suis très content. Quand je regarde le Moyen-Âge et toutes sortes d'autres régions, je me dis, oula, eux, ils l'ont fait, mais... Comprenez, je suis content qu'il y ait eu une évolution. Je suis content que Dieu a donné cette capacité à l'être humain de réfléchir, de penser, d'être intelligent, de créer des choses, d'inventer. Parce qu'il nous a fait à son image. Moi, je suis content que chaque fois que si je veux aller voir ma famille à l'île de la Réunion, je n'ai pas besoin d'attendre un bateau à voile avec 100 types qui vont ramer pendant 3 mois. Je ne sais même pas si je vais arriver au bout, parce qu'entre-temps, il y aura la malaria et toutes sortes d'affaires qui vont arriver. Il y a eu une évolution et Dieu a donné cette capacité à l'homme d'être intelligent. L'intelligence vient de Dieu. Parce qu'on n'a pas besoin d'être avec Dieu pour être intelligent. On n'a pas besoin d'être croyant pour être intelligent. Il y a plein de gens qui se fichent royalement de Dieu et qui sont pourtant très intelligent et très sage. C'est une capacité que Dieu nous a donnée. Dieu nous a créés ainsi. On ira sur la suite, sur l'intelligence spirituelle que Dieu vient nous donner lorsqu'on accepte, lorsqu'on le laisse nous métamorphoser. Mais à la base, on est intelligent. On est doté d'une certaine sagesse. On a ces choses en nous. Bien sûr, notre éducation est là, notre culture, nos études, tout ça vont alimenter ces choses-là. Mais à la base, on est des êtres humains, pas des animaux. Alors, c'est faux de penser que prendre une décision avec son intelligence ne peut pas être une bonne décision ou ne peut pas être la chose que Dieu veut. C'est faux de penser ça. Parce que l'intelligence, c'est d'abord Dieu qui nous l'a donnée. Alors si Dieu nous a donné cette intelligence, c'est pour qu'on s'en serve. C'est une belle capacité pour faire de bonnes choses. Et heureusement qu'on a notre intelligence, parce que sinon, on devrait pour tout demander à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Imaginez le rythme de vie qu'on aurait. Il y a un nombre incalculable de décisions qu'on prend à partir du moment où on ouvre les yeux le matin. Imaginez, vous arrêtez déjà, est-ce que je sors du côté droit ou du côté gauche du lit ? Ça peut tout changer. En partant comme ça, la journée va être longue, très longue. Dieu nous a donné une capacité. Dieu nous a donné une intelligence, et sinon on deviendrait fou, hein ? D'accord, hein ? C'est pas la couleur de la chaussette qui va changer ma destinée. Pour certaines filles, peut-être. Oh, je plaisante. Lorsque vous étudiez, vous ne demandez pas à Dieu, Seigneur, maintenant que je suis dans ces études, est-ce que je dois écouter le prof ? Non. Comprenez, il y a toutes sortes de choses qui sont naturelles, qui sont là. Je le fais, je vais au travail, mon patron me dit quelque chose, je ne dis pas, Seigneur, attends, oh, je vais prier avant. Je vais voir ce que Dieu me dit, puis je te reviendrai là-dessus. Non ! Vous n'allez pas tenir longtemps dans votre travail. Hein ? Alors pourquoi vous faites ça tous les jours et que lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, on bloque ? Pourquoi tout d'un coup Dieu serait différent ? Pourquoi tout d'un coup, là, pour maintenant, là, l'intelligence, tu le mets de côté. Puis là, t'attends. Je ne sais pas, que Dieu te programme, je ne sais pas. Qu'un ange vienne te frapper sur la tête. T'attends quoi ? Dieu nous a dotés d'une intelligence et d'une sagesse. Et il faut s'en servir. Si je suis conscient que le sport, c'est bon pour la santé, n'attends pas qu'un ange t'inscrive au Club Med ou je ne sais quoi. Fais-en du sport. C'est juste un exemple. Hein. Je ne dis pas de vous mettre au sport. Hein. L'intelligence et la sagesse, c'est très utile. Par exemple, dans le choix du conjoint. Si vous choisissez un conjoint juste en disant « Pourquoi ? Parce que je l'aime. Parce qu'il est beau. » Revenez sur terre. Dieu vous a donné pas juste des émotions, des sentiments, mais une intelligence.
Alors c'est sûr qu'il faut l'aimer quand même, hein. Ça, c'est quand même important. Puis le trouver beau ou belle, ça peut quand même aider.
Mais une intelligence. Posez-vous des questions. Quels sont nos objectifs ? Avons-nous des points en commun ? Est-ce que c'est une relation équilibrée ? Est-ce que c'est toujours moi qui dois le tirer ? Est-ce qu'il me respecte ? Est-ce qu'elle me respecte ? Comment gère-t-il sa vie ? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ? Toutes sortes de questions qu'il vous faut. Vous savez, on a une intelligence. Dans Actes 9, 23, la Bible nous dit que Paul donc, va se convertir, et qu'il va arriver dans une ville, il va commencer à parler de Jésus. Puis là, il y a plein de gens, ils ne vont pas comprendre. Parce que quelques temps avant, il persécutait tous les chrétiens. Puis voilà que maintenant, lui, il parle de Jésus. Et la Bible nous dit qu'au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. Il s'appelait Saul à ce moment-là, on gardait les portes jour et nuit de la ville afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Ils n'ont pas eu de révélation divine. Tu veux sauver ta peau ? Cours ! Il n'a pas fait un jeûne de 3 jours pour savoir s'il devait fuir là. Dieu nous a donné une capacité. Dieu nous a donné un élément incroyable qui s'appelle les méninges. Le pasteur John Stott dira ceci, « Dieu n'a pas promis de nous diriger pour nous épargner l'ennui de penser. » Quelques chrétiens imaginent qu'il est super spirituel de recevoir des directions de Dieu par des impulsions irrationnelles. Ce n'est pas super spirituel, ce n'est même pas spirituel, c'est charnel, c'est pire, c'est animal. C'est comme si vous demandiez à Dieu de vous traiter comme des bêtes, comme un cheval qui attend que quelqu'un tire sur son morse ou qui lui donne un coup de fouet ou un coup d'éperon. Nous ne sommes pas des chevaux ou des mulets sans intelligence. Notre intelligence doit s'appliquer dans chaque domaine de notre vie, que ce soit la gestion de nos finances, dans la manière de chercher du travail, dans la résolution d'un problème, de sortir d'une situation difficile. Dieu nous a équipés. La Bible nous dit, et puis le livre des Proverbes, est incroyable pour parler de tout ça. Mais par exemple, je vous donne plusieurs exemples. Proverbe 1:5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Proverbe 2:11. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Proverbe 16:20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe 19:2. Le manque de science n'est bon pour personne. Proverbe 19:8. Celui qui acquiert du sens aime son âme, et celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Proverbe 24:3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Proverbe 25. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Et la Bible nous pousse même à aller chercher de la sagesse et des conseils auprès des autres. Il va dire, oui, vous avez reçu une capacité, une sagesse, une intelligence, eh bien alors, quand tu es encore devant des situations, va demander encore conseil. En gros, ce que la Bible nous invite à faire, elle nous pousse à cumuler le nombre de cerveaux qui vont se mettre à réfléchir. Dit comme ça, ça n'a pas l'air très spirituel. Pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit, fais marcher plusieurs méninges à la fois. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 19:20, écoute les conseils, reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Proverbe 20:18, les projets s'affermissent par le conseil. Alors ne cessez jamais d'apprendre, d'écouter. Parfois, il y en a plus qui disent « je sais, je sais ». Au lieu de dire « de je sais », vous devriez dire « merci de m'avoir appris quelque chose ». Je veux apprendre. Je veux faire grandir là-dedans. Oh, ça ne demande pas forcément. Si vous avez fait des études, c'est très bien pour vous. Mais ça ne demande pas d'avoir un bac plus 10. La Bible nous dit que Dieu lui-même nous donne cette capacité d'être intelligent et sage. Le psalmiste va dire, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Le bon sens. Enseigne-le-moi. Et Dieu nous donne et nous permet et désire nous donner ce bon sens, cette sagesse. Proverbe 2:6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Car c'est avec cette sagesse qu'on va gérer ce que Dieu nous donne. Souvent on met l'emphase, vous savez, sur la volonté de Dieu. Seigneur, il y a un truc spécifique, puis là je mets toute une emphase, je vais jeûner, puis il y a toutes sortes de machins que je vais faire pour ce truc. Dieu va me donner une réponse. Puis une fois que j'ai ma réponse, c'est comme si que tout le reste disparaît. Je viens de recevoir quelque chose qui est parfait. Si Dieu m'a donné une décision, je viens de recevoir quelque chose qui est parfait, ben je devrais plutôt continuer à dire, Seigneur, dis-moi maintenant ce qu'il faut que je fasse avec. Donne-moi cette sagesse, donne-moi cette réflexion, donne-moi cette intelligence. C'est dans n'importe quel cas, dans notre emploi, Seigneur, donne-moi cette intelligence, donne-moi à briller parce que Dieu veut qu'on brille là où on est. Mais pas comme Moïse, parce qu'il brillait, parce qu'il était dans sur la montagne avec Dieu. Mais parce qu'il brillait de par son intelligence. Lorsque Pharaon va regarder Joseph et lorsque Joseph va lui parler, il va dire « Je n'ai pas vu un homme qui a cet esprit en lui. Il est différent. » Et les autres peuvent voir cette intelligence, cette sagesse de ce que Dieu a mis en nous. Alors oui, Dieu veut nous conduire, quel que soit le domaine de notre vie. Mais il veut qu'on apprenne à faire fonctionner les méninges. Qu'on apprenne comment aimer l'autre. C'est bien beau que Dieu nous dirige pour le mariage, mais Apprendre à aimer l'autre, c'est un apprentissage. Hein. En prendre soin, gérer un budget, l'éducation des enfants, tout ça, c'est important. Dieu veut nous conduire professionnellement, mais il veut nous donner cette sagesse pour réussir. On pense trop souvent à tort que Dieu va faire beaucoup plus de choses que ce qu'il est censé faire. Dieu attend qu'on le fasse, puis nous on attend que lui le fasse. Puis on peut attendre longtemps comme ça. Hein. Alors, certains attendent que Dieu leur donne le super métier. Oh, j'ai pas du tout étudié pour ça, mais Dieu va me donner le super métier, le métier de mes rêves. Oh, Dieu va me donner... Ah, Dieu va me... Ah, je vais être riche, je le sais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, non, je le sais, je sais pas, Dieu va me donner... Dieu va... Je vais être riche. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Ben, je sais pas, Dieu, je vais être riche un jour. Comprenez, ça n'a pas de sens. On veut des choses, mais on met rien en place. Parce qu'on n'a pas compris que Dieu va pas tout faire. Dieu nous donne une directive. Dieu nous dit, voici là, je te veux là-bas. Mais entre ici et là-bas, il y a un chemin. Et là, il faut faire fonctionner nos neurones et notre intelligence. Souvent, j'entends, je sais enfin qu'est-ce que Dieu a pour moi. Ma réaction, c'est de dire, alors, qu'est-ce que tu mets en place pour ça? Qu'est-ce que tu fais pour arriver à ce que Dieu veut pour toi? Ah ben non, si Dieu veut que j'aille là-bas, c'est sûr que je vais y aller. Si Dieu me veut là-bas, ben ça va arriver. Ça va arriver comment? Un ange va te porter? Non! Et souvent, on n'arrive pas parce qu'on ne fait pas le premier pas pour y arriver. Dieu ne va pas nous traîner tout le long de notre vie. Dieu nous a dotés d'une capacité incroyable qu'il faut prendre soin. Alors arrêtons de vivre au jour le jour. Je notais ça il y a quelques temps. Arrêtez de vivre au jour le jour. Ce n'est pas parce que Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine qu'il faut juste vivre le jour. Non, ça veut dire inquiète-toi juste pour aujourd'hui, puis demain tu verras demain. Mais vivre au jour le jour n'est pas bon et n'est pas spirituel. Jésus, avant même de venir sur terre, savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il voulait faire. Il savait où il allait. Lorsque Paul prie, comprend sa mission, il ne demande pas tous les 5 minutes à Dieu, est-ce que je vais évangéliser cette ville? Est-ce que je vais évangéliser sa ville? Non. Il a reçu un mandat, il fonce, il y va. Il a un mandat. Il fait marcher son intelligence. La Bible nous dit, qu'on va le voir vendredi prochain, mais à un moment donné, il bifurque sur plusieurs villes. Il va dans une ville, Dieu ne lui permet pas. Il va dans une autre, Dieu ne lui permet pas. Mais entre-temps, il avance. Il avance, il fait marcher ses neurones, il va à la ville suivante. Puis il arrive à Troas, il reçoit une révélation. Donc là, on rentre dans le troisième stade qu'on verra, où Dieu intervient à un moment spécifique pour une révélation. Et Dieu lui dit, va en Macédoine. Paul va en Macédoine, mais la Macédoine, c'est grand, c'est très grand. Ben, Paul a commencé par la première ville qu'il a trouvée en Macédoine. Parce qu'on fait fonctionner. Dieu nous donne une directive, Dieu nous présente sa volonté, mais ensuite, là-dedans, là, faut que ça commence à tourner, et il ne faut surtout pas que juste ça tourne, mais que ça devienne réel, qu'on prenne des décisions face là où on veut aller. La Bible nous dit ceci, va vers la fourmi, elle parle aux paresseux, mais je crois qu'elle parle à tous, considère ses voies et devient sage, elle n'a ni chef ni inspecteur, elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La fourmi est très efficace, elle sait où elle va, elle sait. Elle prend le temps pour manger, mais elle prend le temps aussi d'amasser. Elle a une stratégie de vie. Alors, si Dieu nous montre un animal qui n'a même pas doté de cette intelligence que l'être humain a, ben certains seront un peu plus bas dans l'échelle que la fourmi. Parce qu'on vit au jour le jour, puis je ne sais pas ce qui m'attend, puis Seigneur, bénis cette journée. Je ne sais pas où je m'en vais, moi, dans la vie, mais j'y vais. Je mange, je travaille, je rentre chez moi, c'est bien. Dieu nous a donné beaucoup plus que ça. Dieu nous a équipés de beaucoup plus que de vivre, développer des stratégies. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Si vous ne le savez pas, demandez-lui, il va vous le dire. Mais une fois qu'il vous l'a dit, Seigneur, maintenant je veux mettre en place une stratégie de vie. Je veux savoir où il faut aller. Je veux savoir quoi faire. Je veux savoir pourquoi demain. Pourquoi demain? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je vais faire ce que je vais faire demain? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Et pas juste une journée de plus. une journée, une autre journée, et encore une journée. La Bible nous dit que celui qui soigne son figuier en mangera le fruit. Jésus dira, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer et voir s'il a de quoi le terminer. Bien sûr, on va tout soumettre à Dieu, bien sûr, on va tout remettre ça dans la prière. Puis, comme je lui dis, je ne fais pas l'équilibre ce soir, on reviendra sur la suite, mais je veux prendre le temps parce que trop souvent, on ne pense pas comme ça. On pense que Dieu va faire tout ce que je viens de dire, c'est Dieu qui va le faire à notre place, sauf que c'est faux, Dieu ne le fera pas. Parce que Dieu nous a donné ce qu'on a besoin, Dieu nous a donné ce qui nous est nécessaire pour vivre cela. Alors oui, on va prier pour dépendre de Dieu, mais au même titre que je mange parce qu'il faut manger, que je dors parce qu'il faut dormir pour boire, je vais prendre une multitude de décisions parce que Dieu m'a donné une sagesse, une intelligence. Et je vais terminer avec ceci, parce que ça c'est la question qui nous hante tous. En tout cas, encore plus les Français, je vais vous démontrer pourquoi. Ce qui souvent nous paralyse, c'est cette ultime interrogation. Vais-je me tromper? Et si je me trompe? Cette question qui nous paralyse beaucoup trop. Comme si nous n'avions pas le droit à l'erreur. Où est-ce que vous voyez dans la Bible que nous n'avons pas le droit à l'erreur? Je remonte au début de ce que j'ai dit. Une volonté parfaite dans un monde imparfait, dans des mains imparfaites. Nous sommes appelés à vivre dans des choses que Dieu nous demande de faire. Et Dieu nous oriente, nous donne des directions. Mais est-ce que cela veut dire que toutes nos actions seront parfaites? Est-ce que Dieu a promis que tous nos choix seraient parfaits? Est-ce que Dieu nous a promis qu'on ne se tromperait jamais? Ok, je fais trop le silence. Vous dormez, c'est ça? Combien de fois, puis là je suis sûr qu'on pourrait tous lever la main, mais combien de fois on a fait face à des situations, on a prié et on ne savait toujours pas quoi faire? N'est-ce pas? Combien de fois? Plein de fois. Mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On attend encore? 1 an? 10 ans? 15 ans? Jusqu'à ce qu'il y ait un ange qui se réveille, peut-être qu'il s'est endormi sur le parcours? Il n'a pas passé le bon relais? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Alors ne vous posez pas cette question le jour du mariage lorsque le maire va dire « Voulez-vous prendre pour épouse cet homme ?» Et là vous dites « Bon, je le fais, si je ne le fais pas, je ne saurai jamais si c'est le bon. » Non, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser la question. Hein. Il va falloir réfléchir avant. Hein. D'accord? Donc ne mélangez pas tout, je ne suis pas en train de vous dire dans un ultime moment de vous poser cette question. Non, non. Je parle d'une multitude d'actions, de choix, même parfois par professionnel ou autre. Et même sentimentalement. Tant que vous n'avez pas passé la bague au doigt, vous êtes libre. Hein? Alors je ne dis pas de... Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Mais rencontrez-la, parlez-lui au moins. Puis si vous ne savez toujours pas, puis vous savez que vous êtes en paix, il n'y a rien qui cloche.
J'en ai au moins qui est d'accord.
On avance, mais on avance avec cette sagesse que Dieu nous a donnée. Bien sûr, on ne va pas se marier en 2 jours, c'est pas ça que je dis. Mais si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais si ça marche ou pas. Apprenez à essayer des choses et on s'en fiche, si ça ne marche pas, et alors? Et alors? Ça va changer quoi? Vous savez, l'échec n'est pas que mauvais. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de votre apprentissage. Je vais vous démontrer quelque chose là tout de suite. Que vous avez toujours accepté l'échec jusqu'au moment où vous avez commencé à raisonner en tant qu'adulte. Lorsque vous avez commencé à marcher, êtes-vous tombé? Lorsque vous avez appris à marcher? Ça remonte peut-être loin, je sais, mais... oui ou non? Alors pourquoi vous avez continué? Lorsque vous avez commencé à apprendre à parler, est-ce que vous avez fait des fautes de grammaire? Est-ce que tout le monde vous comprenait? Non! Hier, j'étais avec ma grand-mère, puis ma fille lui parlait, puis elle a dit « Oh, ben, y a que les parents pour comprendre. » Je lui ai dit « Ah non, moi je comprends, mais... » Non! C'est un apprentissage! Donc on ne comprend pas, mais on continue pareil! Est-ce que la première fois vous avez pris une leçon, pour ceux qui ont le permis de conduire, vous avez fait ça, disant « Bon, ça y est, donne-moi-le, puis on n'en parle plus. » Non! À moins que vous ayez pu apprendre avant avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, la première fois que vous êtes rentré dans une voiture, il y a des hésitations, il y a un apprentissage qu'il doit faire. Pourtant, on a été au bout. Alors pourquoi on fait ça pour des choses, plein de choses de la vie, mais pour, oh, dès qu'il s'agit de Dieu, oh, pour un projet de vie, oh, pour un projet, oh, non, 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 je n'ai pas le droit à l'erreur. Elle est où la différence? Elle est où la différence? C'est ça l'apprentissage. C'est ça l'apprentissage de la vie. La Bible nous dit que 7 fois le juste tombe, ben il se relève. C'est ça qui est écrit. Il se relève, il avance. L'échec n'est pas là pour nous écraser, il est là pour nous dire, ben écoute, essaye autrement. Ou change ça. Elle est là pour nous communiquer un apprentissage. La Bible nous donne un principe à ça. Il va dire, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il va dire deux choses, ne sois ni un cheval, ni un mulet sans intelligence. Ne sois pas quelqu'un qui part au quart de tour, ni un mulet qui bouge jamais. Avance, fais pas après pas. Et si tu tombes, tu vas apprendre de cela. L'imperfection fait partie de notre quotidien. Si vous avez été à la salle de sport, vous êtes pété un doigt de pied, c'est pas parce que Dieu ne vous a pas voulu là, ce jour-là. Dès qu'on bouge cette espèce de chose qui signifie le corps, ça peut arriver des choses bizarres et puis on peut se faire mal, ça fait partie de la vie. Et c'est pareil dans les lois de notre vie professionnelle, de bien des choses. L'imperfection fait partie de notre quotidien, on a le droit de se tromper. Combien de personnes ont des rêves? Combien de personnes sont capables de vous tenir pendant 5 heures d'affilée et vous expliquer tous leurs rêves? Puis ça semble tellement incroyable, on est accroché à leur bouche. Puis là on se dit, ah bon, et t'en es où? Oula, où j'en suis? Non mais, oula, ça c'est dans longtemps ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour... Oh non, non, mais non, de toute façon je suis sûrement pas capable, mais ça serait tellement bien que... Mais c'est juste un rêve, arrête de rêver. Si tu veux le réaliser, alors réalise-le, ton rêve. Fais-le, fais quelque chose, et ton rêve se réalisera. Mais n'attends pas que le rêve tombe du ciel. Fais quelque chose. Et notre culture joue contre nous dans ce domaine. Je lisais, je regardais tout plein d'études qui ont été faites, puis c'est assez surprenant quand même. Hein. Mais on est quand même très particuliers, nous les Français, on ressort quand même souvent du lot... pas mal de papiers, parfois pas toujours en bien. Mais par exemple, dans l'initiative, dans le lancement d'une création, d'un projet, d'une idée, seulement 6% des Français ont réalisé quelque chose. On se situe 56e sur 59 pays étudiés. C'est quand même intéressant. Hein, 56e sur 59 pays. Et l'étude a approfondi la chose. Et chaque étude donc est venue découper un peu, voir les mentalités de chaque culture. Et une des choses qui est ressortie, et la raison majeure à cela, c'est que chez nous, il y a une immense peur de l'échec. Une immense peur de l'échec. C'est dû à notre éducation, c'est dû même à notre système scolaire. Vous savez que notre système scolaire est très différent de bien d'autres pays. Par exemple, nous, à l'école, on est sanctionné par les devoirs. Un devoir va directement à nos parents ou au prof qui note, puis ça se termine là. D'accord ? Alors que dans bien d'autres écoles, la personne qui se note, c'est l'élève lui-même. Et il y a tout un apprentissage qui est fait par là. Et l'élève n'a pas honte de se tromper parce qu'il sait qu'il va pouvoir se rectifier lui-même, et cela plusieurs fois avant d'arriver devant le prof ou devant le parent. Sauf que nous, on est tout de suite sanctionnés. Puis il y a toutes sortes, l'étude est super bonne, mais ce serait trop longue pour la dire ce soir, mais il y a cette règle qui est surrépétée, il est interdit de se tromper. C'est comme si se tromper, c'était inacceptable. Vous savez, Steve Jobs, il est mort, fondateur, c'est toute la marque Apple. Hein. Il disait ceci, ce qui est bien, c'est qu'aux États-Unis, j'ai le droit de me tromper, mais pas en France. Je ne peux pas me le permettre. Parce que si je me trompe, je ne pourrai jamais me relever ici. C'est fort quand même. On a plein de personnes, et puis on regarde le monde anglophone, puis on les voit évoluer, puis même dans le monde chrétien, il faut être réaliste. Hein. C'est pas par hasard qu'ils sont là, puis nous on est encore là. Hein. Il y a une mentalité qu'il faut apprendre. Et notre culture nous joue des tours, mais il faut aller au-delà de la culture. La Bible nous dit que Dieu brise les lois de la culture, Dieu brise toutes ces barrières. Dieu nous a donné une intelligence, Dieu nous a donné une sagesse. Et Dieu veut nous élever au-dessus de tous nos concepts, toutes nos barrières, tout ce qui nous freine. La peur de se tromper a plusieurs conséquences, comme l'intolérance. C'est combien ça pour vous? 2. En Chine, ça veut dire 8, ça. C'est que chaque pays a des codes, chaque pays a culture, a des, je dirais, un code de culture. Et finalement, pour nous, ce qui est normal va sembler bizarre dans un autre pays, et ce qui est normal dans un pays va sembler bizarre pour nous, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de bien faire. Il y a plusieurs façons de bien faire. Il n'y en a pas une. Alors ça, il faut apprendre. Il y a plusieurs seigneurs. Je veux le faire. Je vais essayer. Puis si c'est pas, si je vois que je me suis trompé, je vais essayer autrement. Puis peut-être que là, je vais réussir en faisant ça, puis qu'un autre, en faisant la même chose, lui, va pas réussir. Mais je vais pas lui dire, ah ben, t'es pas normal parce que t'as pas fait comme moi. Non. Il a le droit d'essayer aussi. Et lui est différent, lui a des capacités, lui a une personnalité différente, et il trouvera sa route, mais il a le droit de se tromper. Et vous savez, on est tellement pris par cette mentalité que l'erreur est inacceptable, qu'on ne l'accepte pas chez les autres. Qu'on est les premiers, quand quelqu'un se plante, à se dire, ah, et je le savais, hein. Je t'avais dit de ne pas le faire. Ben non, justement, t'aurais dû l'encourager à essayer. T'aurais dû encourager à essayer. Et s'il s'est planté, alors va plutôt aller le voir, réfléchir avec lui comment il peut se relever et comment il peut essayer encore. Ou changer de route. Mais en tout cas d'avancer. Avancer. Et c'est pour ça que si souvent, l'intolérance fait que quand l'autre réussit par contre, ah là c'est louche. Quelque chose de suspect. Ça, c'est pour vous dire à quel point on est pris par ce code, qu'on n'a pas le droit de se tromper. On se focalise sur nos erreurs plutôt que nos forces. Winston Churchill va dire, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je termine, cela nous emmène souvent sur un manque de persévérance. Lorsqu'on est pris par ce focus qu'on ne peut pas se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur, alors si on se plante, on arrête. On ne se dit même pas, peut-être qu'il y a un truc sur les 10 que j'ai mal fait. Non, on met tout à la poubelle. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. S'asseoir, considérer ce qui a été bien fait, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il ne faut plus faire, ce qu'il faut arrêter, et continuer d'avancer. Parce que Dieu nous a dotés d'une intelligence, d'une capacité. Alors oui, parce que, comme je le disais, à cause de l'imperfection de ce monde, même si vous faites purement la volonté de Dieu, vous allez devoir traverser des tempêtes, vous allez devoir persévérer, et la volonté de Dieu ne signifie pas que tout va être facile. Alors apprenez à persévérer dès maintenant, parce qu'on devra toujours persévérer. Même lorsqu'il nous demande et nous dit clairement, voici ma volonté, je disais, l'histoire de la biographie d'un milliardaire. Et il disait qu'il avait fait 53 faillites personnelles avant d'être milliardaire. Il a essayé 53 façons d'être riche. C'est la 53e qui a marché. Mais je suis content pour lui. Et franchement, moi, quand je lis ça, je me dis, c'est super qu'il ait essayé 53 fois. Parce qu'il a réussi.